Des livres plein les oreilles. Pouvez-vous le croire, mes amis, que c'est la dernière de la saison ? Eh oui, nous sommes ensemble tous les jeudis. Depuis le mois de septembre dernier, ça représente 34 émissions, je ne sais plus combien d'invités, certainement des centaines, voire des milliers de livres évoqués, parfois en profondeur, parfois un peu plus succinctement, disons. Ça représente énormément de personnes non-voyantes qui s'expriment à chaque semaine pour nous parler des livres qu'elles lisent ou qu'elles écoutent, si vous préférez. Ça nous prend des bénévoles comme Serge Bradet, qui est là aujourd'hui.
Bonjour,
Serge. Et ça nous prend des invités. Et non des moindres, aujourd'hui, je suis tellement émue, je finis la saison avec Larry Tremblay. Bonjour, Monsieur Tremblay.
Bonjour, Clotilde.
Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais eu du mal de ne pas terminer la saison avec nul autre que Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Le plus fidèle parmi les fidèles. Je sais que quand j'ai présenté Larry Tremblay, vous avez dû avoir un petit coup au cœur parce que c'est quelqu'un dont vous appréciez beaucoup la plume.
Oui, je suis ému et tout.
Ah oui, hein? Ah, je m'en doutais. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez choisi de parler d'un livre. Je suis convaincue, je ne l'ai pas lu, hein, mais bon, vous savez que quand je ne peux pas tous, malheureusement, les lire, mais lorsque j'ai préparé l'émission, je suis allée voir de quoi il en retournait. Je me suis dit, oh, que c'est exactement le genre de livre qui doit plaire aussi à M. Tremblay. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Alors, c'est un auteur français que je ne connaissais pas du tout. Il s'appelle Cyril Massaretto. Il serait né à Perpignan. Vous connaissez bien Perpignan.
Oui.
Et donc, en 75, donc il est dans la quarantaine.
Il est tout jeune,
C'est un monsieur qui a commencé par écrire des paroles de chansons pour un groupe qui s'appelait Saint-Louis. Je ne connais absolument pas ce groupe. Et il en est venu à écrire des romans. Il en a quelques-uns, dont un qui aurait eu du succès. Il s'appelle « Dieu est un pote à moi ». Bon,
oui.
J'ai vérifié au Québec tout ce qu'on a de lui. C'est le livre dont je vais parler, donc un roman, son tout dernier. Bon, j'ai un trou de mémoire.
Quelqu'un à qui parler.
Quelqu'un à qui parler, oui, ça commence bien.
c'est à nous que vous parlez, mon ami.
Alors, « Quelqu'un à qui parler oui. » paru l'an dernier. C'est un livre... Vous savez, en France, je pense qu'on dit encore un roman « feel good ».
Ah oui, bah oui.
Il faut être en France pour dire ça.
Ben oui.
C'est le genre de roman qui font du bien. Et, ouais. et là, je place le bonhomme, le narrateur, il a 35 ans, il vit dans un deux pièces à Montmartre, à Paris, et au-dessous de lui, il y a un couple de septuagénaires, Marcel et Marceline, et oui, il s'appelle comme ça, et il le garde. Tous les soirs, parce qu'il est seul, ce pauvre Samuel, ben, il l'invite à souper. Donc, tous les soirs, il soupe chez ses amis Marcel et Marceline. Or, un jour, le jour même de son 35e anniversaire, ses amis septuagénaires ne sont pas là, ils sont partis à l'hôpital parce que la dame s'est blessée au pied.
Okay.
Il est tout seul. Et là, il a la déprime. Il boit, il reboit. Et là, tiens, il décide d'appeler son ex, avec qui pourtant elle est séparée depuis bien des années. Bon, elle le rembarre, comme on dit là-bas.
Oui.
Et là, il se souvient d'un numéro de téléphone. Eh bien, c'était le numéro de téléphone de la maison familiale, là où il a vécu avec sa mère, son père, il y a quand même bien longtemps. Il appelle. Et là, qui décroche à l'autre bout un petit garçon qui n'est autre que lui-même à 10 ans. Alors, ils vont se parler. Voilà. Il y a le vieux Samuel, entre guillemets, et le jeune Samuel. Donc, à 25 ans d'intervalle, ils vont se parler. Ils vont se parler de soir en soir. Alors, évidemment, le petit Samuel se rend bien compte que le vieux, que celui qui est devenu, le bonhomme de 35 ans, eh ben, est pas très heureux. Alors, il va, mine de rien, essayer de lui redonner goût à la vie. Et là, évidemment, le Samuel de 35 ans lui pose des questions. Mais mon Dieu, comment se fait-il que je sois si loin de ce petit garçon de 10 ans qui, je vous le dis tout de suite, lui, il rêve d'être footballeur ou écrivain. Mais évidemment, le vieux Samuel n'est ni l'un ni l'autre. Quoi qu'il rêve d'écrire un roman. Bon.
Ouais.
Alors, de soir en soir, donc, ils vont se parler, et là, le Samuel de 35 ans s'interroge. Mais bon sang, l'enfant que j'étais, est-il fier de ma vie? Est-ce qu'il aurait vraiment envie de devenir l'adulte que je suis aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas trahi ses rêves, en fait? Donc, est-ce que je n'ai pas renoncé à mes rêves? Donc, j'aurais trahi le jeune garçon de 10 ans. Toutes des questions fort graves.
Ce sont d'ailleurs des questions qu'on se pose nous-mêmes, sauf que là, lui, il est allé plus loin en se disant, tiens, je vais l'incarner, cet enfant-là, quoi.
Voilà, mais moi, je dirais aussi par rapport à ça, quel adulte aujourd'hui ose se poser ces questions-là? Or, lui, il le fait, et comme je l'ai dit tantôt, le petit garçon va comme le révéler à lui-même, et là, il va aller vers... Il va vouloir aller plus loin, il va avancer, comme on dit dans le roman. Mais entre-temps, ce monsieur-là travaille dans une compagnie qui fabrique quoi? Je vous le donne en mille, des vêtements pour chiens. Eh oui, comme à Paris.
Pour chiens, oui.
Dans cette compagnie-là, il y a une jeune dame d'origine chinoise, qui s'appelle Lina, elle est en stage à Paris pour quelques mois. Il va tomber follement amoureux d'elle, mais un jour, elle quitte précipitamment Paris et elle s'en retourne en Chine. Eh bien là, il y a une scène absolument délicieuse. Il va envoyer paître son patron, qui est un maître tyrannique, mais là, à la puissance 10, il va même l'assommer d'un coup de tête. Il va partir aussi vite à Pékin. Il va retrouver Lina en Chine. Il va revenir à Paris. Je dirai pas tout, parce que ce passage-là est assez amusant. Qui, entre nous, entre vous et moi, n'a pas rêvé aussi d'envoyer paître un jour son patron. Mais celui-là, on comprend, il est particulièrement méchant.
Moi, jamais.
Son plaisir, c'est de rabaisser. C'est... Ah bon, d'accord.
Non, 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 non. Moi, je n'ai jamais rêvé de le faire. Je l'ai fait.
Non, non, non. Vous êtes mon héroïne.
Oh là 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 là. Alors...
Donc, il va revenir à Paris avec Lina. Oui. Bon, Marcel et Marceline vont leur céder leur appartement, parce qu'eux ont un grand appartement dans cet immeuble de Montmartre. Bon, j'en dis pas plus, mais ce qui est bien avec ce roman, c'est qu'on aurait pu tomber facilement dans le fleur bleu, le gnagnan. Eh bien non, je pense que Marcel Rotteau a évité cet écueil. Non seulement c'est pas gnagnan, mais c'est au contraire touchant, émouvant. Oui, je pense en particulier au passage où le narrateur pense à sa mère qui, dans le roman, meurt à 32 ans quand même. Mmh. Et là, un soir, il appelle le petit Samuel de 10 ans et lui dit, ce soir, fais un gros câlin à ta mère. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Parce que le vieux, lui, entre guillemets, sait que sa mère va mourir le lendemain. Mmh. Le petit garçon ne le sait pas, lui. Alors, ce passage-là, c'est vraiment très, très, très beau. Combien de fois on va passer à côté de quelqu'un, puis l'être disparaît pour quelque raison que ce soit, et voilà, on ne lui a pas dit qu'on l'aimait, etc. Bon, c'est un roman qui, mine de rien, fait réfléchir, et ça, c'est très bien.
La mort de la mère, je me tourne vers Valérie Tremblay, parce que le Christ obèse, dans votre livre, hein, le Christ obèse, est-ce que vous l'avez lu, le Christ obèse?
Il y a
justement des scènes terribles où le fils, après la mort de sa mère, en tout cas, on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a toujours des coïncidences qui n'en sont pas dans cette émission-là. Et une fois de plus, ici, j'ai un tout petit extrait. J'imagine que le Sam est complètement dépassé par ce qu'il lui arrive, là, par ses rencontres téléphoniques, par cette Lina qui peut-être... En tout cas, et toujours est-il qu'à un moment donné, il arrive en retard au boulot, justement. Et le patron qui lui dit « Eh bien, que se passe-t-il, Sam? Nous avions dit 20 heures précises. » Et lui répond « Oui, désolé, je n'ai pas vu le temps passer. » Puis l'autre lui dit « Mais enfin, tu n'es jamais à ce point en retard. D'habitude, que faisais-tu ?» Il répond « Eh bien, je lisais. » J'étais tellement pris par l'histoire que je n'ai pas vu le temps passer. Et l'autre lui dit « Ah, si c'est à cause d'un livre, alors je ne peux pas t'en vouloir. Un homme qui s'est perdu entre les pages d'un livre n'est jamais vraiment en retard, puisqu'il a gagné un temps que tous ceux qui ne lisaient pas en même temps que lui ne rattraperont jamais. » Je trouve ça...
C'est magnifique, hein, c'est magnifique.
Je trouve ça très beau, Larry Tremblay.
Oui, d'ailleurs, on pourrait imaginer, suite à ce bouquin, imaginons que ce Samuel de 35 ans reçoit un coup de téléphone et que c'est Samuel de 75 ans qui l'appelle. Il y aurait une autre suite, là.
Écoutez, pendant tout le temps que vous parliez, Gérald, je voyais Larry qui était très attentif, mais en même temps, je me disais, il est en train de penser, le bonhomme. Eh bien, c'est à ça qu'il pensait.
Je pense que je vais écrire la suite.
Mais oui, Larry, prenez contact avec ce monsieur dont on va rappeler le nom, monsieur Cyril Massarotto.
Alors, c'est Cyril Massarotto.
Ça s'écrit un peu comme ça se prononce, avec deux S et deux T.
Deux S et deux T, voilà. Un nouvel auteur et vraiment un beau petit livre qui fait du bien.
Bon, quelqu'un à qui parler. Gérald, fin de saison. On va se souhaiter...
Oh, que le temps va vite, ça dégringole, ma parole, ça dégringole, oui.
On se retrouve en septembre?
Oui, évidemment. S'il y a encore des livres, moi, je veux bien continuer.
Merci beaucoup, Gérald. Alors, on vous embrasse, tout le monde, auditeurs, les gens de l'équipe ici, on vous souhaite un très bel été. Et merci tellement de participer régulièrement à cette émission-là.
Ben, vous tous, un bel été également.
Merci, Gérald.
Au revoir.
Au revoir. Alors voilà, il a dit oui tout de suite lorsque je l'ai invité, Larry Tremblay. Moi, je lui disais, oh, honte, pour moi, c'est une espèce de mythe parce que je n'ai pas lu malheureusement les 30 ouvrages que vous avez sortis, Larry. D'abord, bonjour, Larry Tremblay.
Bonjour, Clotilde.
C'est ça, je ne les ai pas tous lus, mais j'ai lu, non pas les principaux, mais en tout cas, j'ai lu, ou en grande partie, ceux qui se retrouvent tous en version audio OSQLA et qui vont faire l'objet de cette entrevue, si vous le voulez bien. On va commencer par la fin. On va commencer par celui qui vient de sortir en audio, dont on dit que c'est un livre pour la jeunesse. Moi, j'en suis pas convaincue. Ça s'appelle « Même pas vrai », c'est ça?
Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est même pas vrai.
Mais le livre, c'est ça. Donc...
Ben oui, le livre s'appelle « Même pas vrai », mais pour moi, c'est 7 à 77, en fait.
Ah!
Voilà.
Comme parce que...
Hein? Comme les Tintins.
Oui, c'est ça.
J'ai
écrit ça pour moi, au départ.
Pour vous.
Sans projet de publication. Parce que le petit Marco, c'est tout le rapport à l'enfance, à la naïveté, à l'interrogation. C'est une forme...
Oui.
Et donc, ça faisait des années qu'il me trottait dans la tête, mais je ne lui accordais pas le temps pour l'écrire. Mais vous savez, c'est comme une obsession. Quelqu'un qui est là en vous... Je veux que tu m'écrives. Ben alors, il y a 4 étés, je crois, j'ai dit « Ok, Marco ». Mais je croyais écrire quelques pages, mais en peu de temps, il y avait toujours des petites scénettes qui se rajoutaient. Puis j'ai mis ça dans un tiroir.
Autrement dit, vous parlez à vos personnages avant même qu'ils existent.
Oui. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone de la maison d'édition. On m'a demandé « Ah, on aimerait que vous écriviez un texte pour les jeunes. » Ben, j'ai dit « Écoutez, j'ai quelque chose dans un tiroir, voulez-vous le lire ?» Et puis, l'idée d'en faire un roman graphique, ça vient d'eux. Mm-hmm. Et puis, eh bien voilà. Et donc, c'était pour les enfants, mais aussi pour l'enfant qui est en nous, nous, les adultes.
Et les enfants, souvent, ne se briment pas au niveau de l'imagination. Alors, eux, l'imaginaire, ils sont ouverts sur le monde.
C'est les années qui s'accumulent en nous qui nous ferment l'imaginaire. Ouais. Et donc, pour tout créateur, c'est d'être vigilant pour ne pas justement fermer ces portes de l'imaginaire qui nous sont grandes ouvertes lorsque nous naissons.
Je suis toujours attristée et interloquée lorsque j'entends des adultes me dire « Moi, j'ai aucun imaginaire ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Larry Tremblay?
Tout le monde en a un, mais on peut évidemment l'agrandir, le fortifier. Ouais. Un créateur, que ce soit un chorégraphe ou un musicien, doit amplifier ce qu'il a déjà eu en naissant. Mm-hmm. Mais on en a tout ça.
Mais bien sûr.
C'est une forme d'être au monde, l'imaginaire.
Oui, oui.
Parce que le réel est une construction de l'esprit.
Oui.
Les perceptions aussi. Enfin, donc, c'est le cerveau qui travaille, mais... Sauf qu'on peut en faire quelque chose.
Ouais.
Donc, lorsqu'on regarde un tableau, ce n'est pas le réel, c'est une déconstruction du réel qui est lui-même une construction.
Exactement.
Alors, on s'amuse beaucoup. Et moi, j'ai besoin de créer des personnages pour me confronter au réel.
Ah oui?
Oui, absolument. En fait, ma façon de réfléchir, c'est à travers la fiction. J'ai plus de facilité à imaginer quelqu'un qui pense à travers une histoire, une situation.
Oui.
Parce que j'ai déjà fait quelques essais, mais je trouve ça assez pénible. Alors, souvent, le fait de me projeter dans un être qui n'est pas moi m'aide à mieux comprendre ce sur quoi je suis en train de réfléchir.
Et du coup, après chacun de vos livres, vous vous sentez encore plus sage, encore plus serein,
ou plus fou.
Oui. Ouais.
Ben, chaque personnage est une façon différente d'être au monde, parce que petit, je m'ennuyais beaucoup. Et je me disais, mon Dieu, nous ne sommes qu'une seule personne, c'est fort triste et c'est lourd d'être toujours la même personne. Et j'ai commencé à faire du théâtre en étant acteur, même amateur au départ. j'avais le grand plaisir d'être un autre, d'être un personnage. Oui. Et ça me reposait beaucoup d'être moi-même.
Oui.
Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Et dramaturge.
Et dramaturge, parce que c'est en m'échappant à moi-même que j'allais vers les autres.
Oui. Je voudrais rappeler peut-être pour les gens qui l'auraient, qui se diraient, Larry Tremblay. Dragonfly of Chicoutimi, interprété par l'immense Jean-Louis Millet, c'est ça.
Ah oui, oui, oui.
Et ça a marqué beaucoup, beaucoup, justement, l'imaginaire, tout comme l'Orangerie. Je le disais en préambule, je pense que c'est le livre qui a été le plus cité ici à cette émission autour de cette table depuis presque 5 ans maintenant que je l'anime. C'est incroyable. À chaque fois, je dis, mais quel est vous le livre qui vous a marqué, L'Orangerie, pour lequel vous avez d'ailleurs obtenu le prix des libraires.
Ah, mon Dieu, c'est vraiment...
Entre autres.
Elle a eu, je pense, 18 prix, là.
18 prix, hein.
C'est incroyable. Il est dans une vingtaine de pays, là, et puis ça continue. Ouais.
Ce roman qui marie la poésie à ce qu'il y a de plus dramatique, de plus, bon, au fanatisme. On est dans un pays imaginaire, mais qui ne l'est pas tant que ça.
En fait, on peut imaginer que ce soit le Liban, Moyen-Orient, la
Bien
Syrie ou encore
oui.
la Palestine.
Et alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, souvenons-nous un peu de cette histoire que je voudrais que vous nous racontiez, hein, ce type qui est obligé de sacrifier un de ses enfants suite à un événement dramatique.
Oui, en fait, on me demande toujours où se situe l'inspiration, mais peut-être ça peut remonter au sacrifice d'Abraham quand j'ai étudié la Bible quand j'étais enfant, mais en fait, je pense que tous les écrivains actuellement doivent réfléchir sur la crise migratoire, sur les causes de la haine, des conflits ethniques, et c'est pas parce qu'on est ici, heureusement, dans un pays paisible qu'on ne doit pas se sentir concerné par les tragédies actuelles. Et aussi, surtout, ce que les enfants subissent. Quand je pense aux enfants soldats, aux enfants kidnappés, aux enfants violés, violentés, et qu'on manipule, qu'on radicalise aussi, parce que c'est très facile de rentrer dans le cerveau d'un enfant et de lui faire faire des choses. Et je me sentais concerné, puis je me suis dit, mais comment l'exprimer pour amener les lecteurs à ne pas juger, parce que souvent on est porté à juger des gens et qui vivent ces tragédies-là et qui n'ont pas vraiment souvent le choix d'agir comme ils le font. Et il faut trouver aussi l'origine du mal. Et donc, c'est pourquoi j'ai commencé à écrire L'Orangerie.
Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que ce livre-là, une fois qu'on l'a lu, il ne nous sort plus de la tête? Moi, je sais que, par exemple, à chaque fois que je vois des images, justement, de Beyrouth ou surtout de la Syrie en ce moment, à chaque fois, d'ailleurs, c'est fou parce que j'allais vous dire, je revois ce couple de vieux mourir sous les décombres. C'est le début du livre L'Orangerie. Et je me dis, mais presque une chance que tous les livres ne nous fassent pas ça. Enfin, on serait envahis par nos lectures, on aurait une vraie... Qu'est-ce qui a fait que ce livre-là a créé à ce moment-là un tel... un mot très français, un tel buzz.
Un buzz. en fait, c'est que j'ai opté pour une écriture simple et, et lyrique.
Lyrique.
J'ai aussi installé avant chacune de mes phrases... Comme si je me disais à moi-même, il était une fois dans un pays que je ne vais pas nommer, dans une époque qui ne sera pas non plus circonscrite. Je voulais installer le contexte d'une fable. Une fable, ça traverse les époques et ça s'adresse à tout le monde. Et c'est, en général, c'est un vocabulaire extrêmement simple. Alors, j'ai vraiment été extrêmement vigilant sur les mots employés. Il n'y a pas de mots techniques. Il n'y a même pas le mot téléphone, s'il apparaît peut-être une fois. En fait, j'ai vraiment été très vigilant. Et puis, je me suis mis à la hauteur, à égalité avec les personnages. Je n'ai jamais jugé les personnages. Surtout, j'étais très proche des deux enfants.
Ça arrive qu'un écrivain juge ses personnages?
Si ça arrive, ça ne devrait pas arriver, mais oui, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on invite ou qu'on installe tout de suite, on amène plutôt le lecteur à penser d'une certaine façon par rapport
au... Bien sûr.
Et j'ai essayé du mieux que j'ai pu de ne pas faire cela, justement.
Mm-hmm. façon, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait mourir rapidement à la page 32.
Oui, ouais, c'est ça. C'est comme quand si on écrit un roman policier, ben, c'est sûr que là, on guide le lecteur parce qu'on ne veut pas qu'il découvre des choses.
Ouais. Parlant de roman policier, le roman dont nous allons parler, qui est également enregistré, c'est Le Christ obèse. D'ailleurs, qui n'est pas un roman policier, mais c'est simplement parce qu'il y a du suspense, il y a du sang, il y a des morts, il y a la police et il y a tout ça. Alors là, on n'est plus du tout.
Ah non, c'est totalement...
Mais alors plus du tout.
Ben, on se dit souvent que ce n'est pas le même auteur qui a écrit Et l'Orangerie et Le Christ obèse. Ouais.
C'est assez hallucinant. Bon, là, on est avec un type timide, hein, un type asocial, un type qui vit en exergue de la société. Évidemment, je n'irai pas jusqu'au bout, mais on se demande... Totalement, mais attends, est-ce qu'il est dans un rêve, ce type-là? On se pose toutes ces questions-là. Un soir, alors qu'il est au chevet, j'allais dire, non, c'est pas vrai, en train de prier sur la tombe de sa maman, récemment décédée, il aperçoit ce qu'il considère être comme quatre chevaliers de l'Apocalypse. Mais ça, alors, vous allez me l'expliquer, en train de violer et de faire mal à une jeune femme.
Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il est très, très imprégné aussi de l'image du christianisme.
Voilà, qui revient souvent quand même, hein,
oui.
Parce que vous avez lu la Bible, hein,
vous
nous le disiez. Puis
ça revient souvent.
Ça revient souvent. Hein.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur le Christ obèse, et c'est sur la théologie dans le Christ obèse.
Ah,
et
oui.
Il me l'a fait lire. Donc, il a vraiment fait un travail assez incroyable, Mais moi, ça m'a échappé parce qu'évidemment, quand on écrit, on ne va pas dire faire une anti-théologie. Enfin, c'est parce qu'on imprègne. Pour moi, le catholicisme, je l'ai vécu enfant. Après, je m'en suis débarrassé d'une certaine façon pour réfléchir sur autre chose.
Forcément, les gens qui n'ont pas lu le livre se posent la question, le Christ obèse, on fait référence à quoi?
Ben, en fait, c'est parti d'une réflexion sur la souffrance et sur la douleur. Parce que dans le catholicisme, la souffrance du Christ est, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi la souffrance du Christ avait le pouvoir de racheter les péchés du monde ou les souillures. Parce que lorsqu'on est, étant catholique, on a déjà le péché originel.
Ouais.
Et je réfléchissais quand même, même enfant, et je me disais, mais j'arrive pas. C'est sûr que c'est un mystère théologique. Cette capacité de racheter nos péchés. Et d'ailleurs, pourquoi avons-nous une souillure d'emblée en naissant? Et pourquoi cette souffrance du Christ est-elle plus efficace que celle de ma mère, de mon père ou de la mienne? Et je réfléchissais là-dessus. Et évidemment, je parlais avec des prêtres qui n'arrivaient pas à me donner de réponse non plus. Et puis, en même temps, il y avait un épisode dans la Bible qui m'avait beaucoup horrifié. C'est que lorsque le Christ est né... on a tué plein de petits-enfants pour, vous savez, cet épisode-là.
Bien sûr.
Et moi, ça m'avait beaucoup frappé parce que j'ai dit, mais quand même, c'est des enfants qu'on tue.
Tous les enfants mâles. Hein.
Voilà. Tout ça, ça m'est resté en tête. Et quand c'est comme si ce questionnement était sous le texte. Il n'est pas dans l'histoire, mais il nourrit mon histoire.
Alors, parce qu'il est important peut-être quand même qu'on définisse un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans le livre, le Christ obèse, il va donc récupérer cette personne, appelons-la une personne, et il va l'amener chez lui avec des détails sordides, mais écrit encore là, votre écriture, Larry, est vraiment sensationnelle. Je précise que je vais vous lire deux extraits de livres de Larry Tremblay un peu plus tard à l'émission, parce que je le fais toujours, Larry, en seconde partie, et ça vous donnera une bonne idée. Entre autres, je vais vous lire un extrait du Christ obèse, et également de l'impureté. Alors, l'impureté, honnêtement, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Il est rentré dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas encore lu. Alors, on parle là d'une romancière à succès, Alice Livingstone, qui meurt, qui laisse derrière elle des gens qui la pleurent.
Hein. Et puis un manuscrit. Un manuscrit qui... Ah oui, ça, c'est vraiment un roman qui m'a... En fait, ce n'est pas tant l'écriture, c'est la structure du roman qui m'a demandé des années de travail.
Des années de travail.
Bah, oui, parce que... Mais parce que la romancière est mariée à un professeur de philosophie. Ils se sont connus adolescents, d'ailleurs à Chicoutimi. Et ils se sont retrouvés plus tard à Montréal. Et là, ils ont développé leur carrière. Ils ont eu un enfant. Et Il s'est passé quelque chose que je ne vais pas expliquer ici parce qu'il y a quand même des choses à découvrir en tournant les pages.
Bien sûr.
Sauf que la romancière en question écrit un roman pour piéger son mari. Mm-hmm. Mais c'est encore plus complexe que cela. C'est-à-dire qu'il y a un double piège dans l'histoire. Et donc, il faut vraiment ne pas lire les pages. Enfin, il ne faut pas aller voir à la fin parce qu'on pourrait... Il faut y aller page par page pour bien sentir le piège se refermer.
Est-ce que c'est comme une poupée russe là, comme c'est un petit peu ça?
Un petit peu ça, mais oui, un petit peu. Ouais. Il y a une mise en abîme parce que dans le roman, il y a un roman.
Oui, d'accord.
Il y a un roman dans le roman et il y a un double piège. Et donc, où se situe le piège et qui est piégé et pourquoi y a-t-il... piège.
Alors, l'impureté, c'est de ce livre de Larry Tremblay que nous parlons. Je ne sais pas si les auditeurs remarquent à quel point chaque livre est essentiel, est important et on a envie. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait une fois que j'ai lu L'Orangerie. Ça a été d'en lire tout de suite d'autres parce que c'est complexe, parce que c'est bon, parce que c'est... Mon Dieu, il me vient encore un mot anglais. Ben non, alors oubliez ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le pire, c'est que je ne parle pas anglais, Larry.
No,
Larry.
Larry. I'm stunned.
Ça fait très, très anglais, d'ailleurs. Larry.
Mon prénom est américain. En fait, c'est le diminutif de Lawrence.
De Lawrence.
Mais sauf que je m'appelle vraiment Larry. Et c'est ma maman à Chicoutimi qui m'a joué ce tour parce que j'étais quand même un des seuls enfants à avoir un nom américain à Chicoutimi à l'époque.
Tremblay en plus, c'est fantastique.
Elle est dans la cour d'école, évidemment, j'étais un peu étrange.
Sur quoi vous travaillez-vous en ce moment pour finir Larry Tremblay?
Je termine un nouveau roman qui questionne le rapport homme-femme, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, et puis je n'y échappe pas. En fait, ma réflexion de départ, c'est pourquoi dans... beaucoup de pays, beaucoup de cultures au cours de l'histoire, pas seulement maintenant, mais dans le passé, la femme est souvent considérée inférieure.
Ouais.
Et puis, il faut se poser la question, pourquoi ça existait, que ça existe encore? Et j'ai essayé de trouver un angle pour en parler dans une fiction assez courte, assez brève, qui pose la question et qui amène le lecteur justement à s'étonner de ça, parce que ça ne devrait pas exister.
Ouais, et la plupart de vos livres, d'ailleurs, sont brefs.
Oui.
En 125 pages, vous êtes capable de nous asséner
J'aime la brièveté parce que ça vient de mon métier d'auteur dramatique, finalement.
Bien sûr.
Parce qu'il faut être court au théâtre.
Mmh. Vous aimez la synthèse aussi.
C'est ça, voilà.
Larry Tremblay, bonheur total de vous rencontrer. Je suis encore une fois très touchée. Je vais recommander à nouveau à nos auditeurs à la toute fin de l'émission. On a 5 ou 6 titres de vous et j'aurai l'occasion de les redonner. Merci infiniment, Larry Tremblay.
Ça m'a fait grand plaisir, Mathilde.
Au plaisir de vous recevoir un autre jour.
D'accord.
Au revoir. Ouais. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, notre ami Larry Tremblay a déjà quitté le studio. J'espère que, comme moi, vous avez passé un bon moment et que ça vous aura donné envie de lire ces livres-là. Tellement touffus, c'est le mot que je cherchais tantôt alors qu'il me venait un mot anglais. Et vraiment, ne gâtez-vous, faites-vous ce plaisir. Et je vais peut-être poursuivre en vous donnant l'envie de le lire, qui sait. Je vais commencer par un extrait de L'Orangerie, ce livre qui est paru en 2013, je pense, 2014, et qui avait fait grand bruit à l'époque, qui a remporté, combien il nous a dit, 18 prix. Alors, vraiment, un livre important, essentiel, un livre à voir dans votre discothèque, et dans votre bibliothèque, et un livre qui va vous rester surtout dans le cœur. Tiens, parlant de cœur, voici cet extrait. « Ton nom est grand, mon cœur, trop petit pour le contenir en entier. Qu'as-tu à faire de la prière d'une femme comme moi ? Mes lèvres touchent à peine l'ombre de ta première syllabe. Mais, disent-ils, ton cœur est plus grand que ton nom. Ton cœur, si grand soit-il, le cœur d'une femme comme moi peut l'entendre dans le sien. C'est ce qu'ils disent en parlant de toi, avec un T majuscule. Et ils ne font que dire la vérité. Mais pourquoi faut-il vivre dans un pays où le temps ne peut pas faire son travail ? La peinture n'a pas le temps de s'écailler. Les rideaux n'ont pas le temps de jaunir. Les assiettes n'ont pas le temps de s'ébrécher. Les choses ne font jamais leur temps. Les vivants sont toujours plus lents que les morts. Les femmes dans notre pays vieillissent plus vite. Les hommes, pardon, dans notre pays vieillissent plus vite que leurs femmes. Ils se dessèchent comme des feuilles de tabac. C'est la haine qui tient leurs os en place. Sans la haine, ils s'écrouleraient dans la poussière pour ne plus se relever. Le vent les ferait disparaître dans une bourrasque. Il n'y aurait plus que le gémissement de leurs femmes dans la nuit. Écoute-moi, j'ai deux fils. L'un est la main, l'autre le poing. L'un prend, l'autre donne. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Je t'en supplie, ne me prends pas les deux. Je vous rappelle l'histoire, il s'agit d'un sacrifice, hein, d'un homme qui doit sacrifier un de ses deux fils, un de ses deux enfants. Alors, je vous laisse découvrir ce livre, l'Orangerie, pour savoir ce qui va se passer ensuite. On parlait aussi un petit peu plus tôt avec Larry de ce livre, de cet autre livre qui s'appelle « Le Christ obèse ». Nous sommes au tout début du livre, au moment où ce jeune homme, qui est un type complètement perdu, hagard, qui vit en exergue de la société, qui vient de perdre sa mère, il est au cimetière, il est devant la tombe de sa mère lorsqu'il entend des bruits et il s'aperçoit qu'il y a quatre hommes qui sont en train d'agresser une jeune femme. Alors c'est juste après... l'agression en tant que telle, je vous lis cet extrait. À bout de force, je m'écroulais près du tombeau de ma mère, n'osant plus remuer un doigt. J'attendis un long moment, la pluie avait cessé. Une légère brume flottait, la laine des morts s'échappait du sol, puante et froide. Je tendis l'oreille, rien. Je ne percevais que le bruissement des ormes qui encerclaient une partie du cimetière. Rassuré, je retournais vers l'endroit où j'avais aperçu les quatre hommes. Il n'était plus là. J'en étais à présent convaincu. Celui qui avait jeté la bouteille l'avait fait simplement pour s'en débarrasser. C'était par pur hasard qu'il l'avait lancée dans ma direction. Je me rapprochais de la chose qu'ils avaient frappée avec leurs bottes. C'était une jeune fille qui avait sûrement été charmante. Même dans cette situation pénible, je ne pouvais m'empêcher d'associer à l'image d'une jeune fille le fait qu'elle devait être charmante. Son visage était ensanglanté. En la soulevant, je remarquais une longue branche qui sortait de dessous sa robe. Je tirai dessus, la lançai vers le ciel de toutes mes forces. Cette pauvre fille avait subi les pires outrages. Je m'enfuis du cimetière, la jeune fille dans les bras. J'avais peur que les quatre cavaliers de l'Apocalypse ne surgissent de la nuit et ne me fassent subir à mon tour des tourments inavouables. Quand j'aperçus le portail d'entrée avec sa haute grille de fer forgé, je repris enfin mon souffle. J'entendais au loin le bruit sourd de la ville, sa respiration mouillée. Cela suffit à me calmer. Je me dirigeais vers mon auto, j'ouvris le coffre et y jetai le corps. Je traversais la ville, rassuré de reconnaître les rues, les enseignes lumineuses, les vitrines éclairées. Il fallait ne plus penser à la branche, me concentrer sur le volant, sur la lumière des phares, sur ce que j'allais découvrir. Et je vous recommande d'aller découvrir tout ce qui va se passer après, parce que ce n'est que le début. Il va donc en quelque sorte s'approprier cette personne, il va l'amener chez lui. Au début, il ne sait pas quoi en faire. Finalement, les mois vont passer et ainsi de suite. Et il va vivre avec cette personne-là et c'est toute la relation entre les deux, la mère qui revient dans le décor. Bon, évidemment, l'idée de la mère qui revient dans le décor et c'est vraiment génial, c'est énorme. Et ça s'appelle « Le Christ obèse » et c'est signé Larry Tremblay que nous recevions aujourd'hui. Et je me tourne vers Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Vous avez l'air tout bouleversé par ces histoires-là.
Ben, c'est assez... c'est pas quelque chose que je lirais avant de me coucher le soir. Là.
Ah, si. Ah, si,
non,
on peut.
Non, ça, je suis pas capable.
Ah non? Ah bon?
Non, j'ai lu le livre d'Ingrid Falaise. Vous savez qui a été sous l'emprise d'un...
Oui.
Écoutez, moi, je l'ai prêté à deux, trois personnes. J'ai écouté, ne lisez pas ça avant de vous coucher le soir.
Oui, mais enfin là, attendez, on n'est pas dans Stephen King avec
Moi, quand même, moi, ça me perturbe, ça. Une nature fragile. C'est fragile.
Mais dites donc, dans l'histoire, on a vu des choses pas très heureuses, non plus, quand même.
Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr.
Hein,
oui,
on voit des choses.
Oui.
Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui, cher Serge?
Avant de commencer, je voudrais juste, quand j'écoutais Larry Tremblay nous dire dans son... il faisait allusion de quelqu'un qui avait... il lui dit, si tu étais en train de lire, je te pardonne.
Oui.
Et moi, il y a une phrase, quelque chose qui m'est revenu, je ne sais pas qui... Je pense que c'est Fontenelle qui avait dit, je ne connais pas... je ne connais aucun chagrin qui n'a été chassé par une heure de lecture.
Oh.
C'est beau. Je ne sais pas si c'est Fontenelle, mais c'est un...
Oh.
C'est pas Fontenelle, c'est quelqu'un de du 17e, 18e.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose qui m'avait marqué.
Très beau. Ouais, ouais. Très, très beau.
Alors, je vous parle aujourd'hui d'un roman historique, évidemment.
Oui. Ben oui.
Qui s'appelle La princesse blanche.
Oui.
Oui. Alors, c'est écrit par Philippa Grégory. Alors, pour commencer, quelques mots sur Mme Grégory. Elle est née le 9 janvier 1954. C'est un écrivain britannique. Elle est née à Nairobi, au Kenya, en Afrique. Comme c'est en 1954, ben, j'imagine que ses parents étaient en poste là. Ça devait être des diplomates britanniques, parce que c'était encore à l'époque de la colonisation. Le Kenya est devenu indépendant dans les années 60. Et elle est particulièrement connue pour son œuvre, L'autre sœur Boleyn, je vous le dis en français, là, The Other Boleyn Girl, c'est Anne Boleyn avait une sœur et elle a été la maîtresse d'Henri VIII avant sa sœur.
Elle en avait quelques-unes, d'ailleurs, des sœurs, je pense.
Là,
Anne Boleyn,
on en parle de deux.
Il me semble qu'elles étaient une tripotée là-dedans, mais non.
Il y en a eu, ben, des rois comme ça ont souvent collectionné des sœurs. Hein, Louis XIV, les sœurs Mancini. Louis XV, les sœurs de Nel. Oui, il y a eu les quatre sœurs de Nel comme maîtresse, alors. ainsi que d'autres œuvres, The White Queen, The Red Queen, Kingsmaker Daughter, etc. Et d'ailleurs, le film de White Queen, on a fait une série télévisée que j'ai vue sur Art Télé. Je pense que c'est Art TV, là, qui était une très, 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 très belle série. Très, très, très belle. C'est l'an dernier que je l'ai vue, moi.
Est-ce que c'était, comment elle s'appelle, Paltrow, Gwyneth Paltrow? Je ne sais plus. Hein,
Non, je ne pense pas.
Qui faisait le rôle?
Je crois que c'était Rebecca Ferguson. Je crois.
Ah, possible.
Oui. Oui. C'est une petite série sur un poste de cadre.
OK, bon, alors, oubliez mon...
Alors, La princesse blanche clôture la saga historique de Philippa Grégory, avec toutes ses autres œuvres, sur la guerre des deux roses. C'est un conflit historique de premier ordre pour la succession du trône d'Angleterre qui se déroule entre 458 et 485, donc 30 ans, entre deux maisons, la maison des Lancastre et la maison des York. Alors, l'emblème de la maison des Lancastre était la rose rouge, et tandis que celle des York était la rose blanche. Bon, quelques mots pour vous situer au début sur cette fameuse guerre des deux roses.
Oui.
Vous situez dans l'histoire. Alors, c'est une guerre qui désigne un ensemble d'affrontements, parce que ça a duré 30 ans, mais on ne s'est pas battu durant 30 ans. Comme dans la guerre de 100 ans, on ne s'est pas battu durant 100 ans. Il y avait parce que une bataille de 100 ans, il ne reste plus rien après. Là.
Bon. Oui.
Alors, il y a des pauses.
C'est clair. Oui, oui.
Alors, qui constitue globalement une guerre civile discontinue qui a lieu en Angleterre entre la maison royale des Lancastre et la maison des York. Elle est appelée ici en référence aux emblèmes des deux maisons, rose rouge et rose blanche. Cette référence ne se fait pas pour autant qu'a posteriori, parce que la rose de Lancastre n'ayant été utilisée comme emblème pour cette maison qu'à partir de 485, à la dernière bataille du conflit.
Mm-hmm.
Donc, le livre, donc ça clôture cette saga historique sur la guerre des deux roses. L'emblème, donc vous avez la rose rouge et la rose blanche. Mm-hmm. L'auteur nous raconte la fin de la guerre.
OK.
Parce que, et ses conséquences, c'est qu'à travers, le regard de la princesse Elisabeth d'York, qui est une rose blanche, et dont le mariage forcé avec Henri VII, qui est une rose rouge, et qui a été victorieux de Richard III, le fameux Richard III qui est mort à la bataille de Bothwell et qui a crié, on a ça dans le Richard III de Shakespeare, un cheval, mon royaume pour un cheval.
Ouais.
Parce qu'il avait été désarçonné et il voulait se sauver. Il n'y avait plus de cheval alors. Donc, il n'y a jamais eu de cheval et il est mort.
Il est mort.
On l'a assassiné. Et elle aimait Richard III et elle aurait dû l'épouser. Et ce mariage-là, forcé, met fin à la guerre des deux roses. Et elle devient reine. Et son avenir, il n'est pas radieux parce que ses deux frères, parce qu'elle a eu deux frères, Richard et Édouard, qui sont présumés morts. Mais présumés morts.
Ouais.
Ils reviennent dans l'histoire un peu. Elle doit faire face aux intrigues de cour. Et d'un côté, elle a sa mère à elle, qui fomente des rébellions pour reconquérir le trône parce que sa famille avait le trône. Et de l'autre côté, bien, la mère de son mari, le roi Henri, complote aussi pour remettre à la place son fils, qui est sur le trône, mais elle veut maintenir son trône. Alors, c'est...
Oh.
Oui, oui, non, c'est vraiment, là, oui, oui.
Alors, et vous lisez ça le soir, vous? Pouf.
Oui, non, ben, c'est pas, mais au moins, c'est... oui, oui, j'ai lu le soir, ça, oui. En plus de tout ça, il y a des révoltes qui sont menées par par les grands du royaume, les grands barons, et par des imposteurs qui se prétendent des héritiers au trône, des héritiers légitimes ou illégitimes. Alors, c'est...
Oh là là!
Oui, oui. Alors...
c'est le trône de fer, votre affaire?
À peu près, c'est ça. Oui, oui. Ce qui était important dans l'histoire, c'est que la fin de la guerre des deux roses, ben, c'est souvent considéré comme le passage entre le Moyen Âge et l'époque moderne, la Renaissance, qui est aussi le moment fondateur de l'État anglais, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a amené, mais il faut dire, c'est raconté tout ça, là, je vous ai... Vous en avez mis un peu.
Oui, oui,
ça.
Oui.
Mais c'est quand même raconté avec brio, tout ça.
Mm-hmm.
On se retrouve, il faut cependant...
Oui.
C'est que vous avez un tas de personnages. À un moment donné, on parle d'un Richard. Mais on parle de quel Richard?
Ah!
On parle d'un Henri. Lequel Henri?
Parce qu'il
y en a dans les Lancasse, dans les York, tout ça. Et ce qui est un peu embêtant quand on lit ça, c'est qu'il faut revenir de temps en temps de qui on vient de parler.
Ah, OK.
Alors, on retourne au chapitre précédent, ça. Ah oui, OK. Parce qu'à un moment donné, on dit, Richard vient de débarquer avec son armée.
Ouais.
C'est lequel, Richard?
Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Mais c'est pas bien, ça, de la part de Mme Grégory, de nous laisser dans le flou artistique comme
c'est
ça.
C'est l'histoire. Parce que tu peux pas dire, à l'écrit, Richard, un tel qui a fait telle chose avant pour nous situer. Alors...
Il faut.
Mais une fois qu'on a passé cette difficulté-là, parce qu'à un moment donné, tu viens assez rapidement à te dire c'est Richard Untel de Barre
incarné,
tout ça.
Oui, oui.
Donc les premières fois, c'est un peu compliqué. Mais passer cette difficulté-là, une fois qu'on a bien compris qui était qui, on a plus d'éléments pour s'habituer à l'ambiance.
Mm-hmm.
Et le livre, c'est un régal. C'est 575 pages.
Ah, quand même.
C'est assez complet, là, ça. Ça ne se lit pas en une soirée. Et on a toujours peur un peu de tomber dans trop d'histoires, mais non, ça embarque.
Ça embarque.
Oui.
Bon. Eh bien, écoutez, parce qu'il ne nous reste plus qu'une petite minute avec ça. Est-ce que vous aviez
beaucoup...
un petit extrait, vous, ou pas?
Non. Mais juste dire que c'est un roman historique. Alors, évidemment, c'est très... il y a beaucoup d'angoisse, tout ça. L'ambiance est oppressante parce qu'on va dans les meurtres, dans les assassinats. Puis on élimine des gens, puis on en ramène d'autres après.
Oui.
C'est qui, celui-là, qui revient? Ah, c'est l'héritier d'un tel
ou
illégitime. Alors, c'est ça.
Rappelez-nous le titre du livre.
Oui, La princesse blanche de Philippa Grégory, édité en 2015.
Et la princesse blanche qui un jour a déclaré « Mon rôle principal pour le restant de mes jours se résume à celui d'une femme vertueuse et d'une reine Tudor dont la devise est humble et pénitente. »
Oui, c'est ça, j'avais cette citation-là.
Vous l'aviez,
tant mieux, vous le dites.
Peu importe si en mon fort intérieur je reste passionnée et indépendante, ma vraie nature sera dissimulée. Et ça, moi, je retiens ça. L'histoire ne se souviendra de moi que comme l'épouse d'un roi et la mère d'un autre.
Encore une fois,
les femmes...
Et c'est ça, dans son livre, remarquez, l'intérêt du livre, là aussi beaucoup, c'est qu'elle nous remet l'importance, le rôle joué par les femmes dans l'histoire.
Parce que souvent,
on pense que ça a été juste une épouse. Non, mais il y a eu beaucoup d'intrigues.
Absolument.
D'ailleurs, il y avait un livre que j'avais lu à mon adolescence. Guy Breton qui a écrit ça. Histoire d'amour de l'histoire de France. Oui, c'était un peu... il faut compléter avec d'autres choses, mais c'est vraiment l'histoire par les femmes, le rôle, l'importance du rôle des femmes dans l'histoire.
Ah ben c'est quand même elles qui, de toute façon, ont donné la vie à tous ces beaux mâles-là qui nous ont gouvernés.
Oui.
Hein?
Et comme toute mère, elles avaient à cœur de voir la rive sud de leur enfant, hein, de les voir monter sur le trône.
Vous avez dit la rive sud? À la rive
sud? Oui, la rive sud sur la rive sud, oui. Il y a une reine qui est venue sur la rive sud, à un moment donné.
Serge Bradet, merci pour cette belle saison que vous nous avez offerte en venant régulièrement. On se retrouve dans quelques secondes avec Hélène Gauthier qui nous a aussi apporté quelques très beaux moments de lecture. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, je vous ai demandé de venir parce que c'est la dernière de la saison et qu'à chaque fois que vous êtes venue, vous nous avez toujours proposé vraiment d'excellents livres sur lesquels moi-même je ne m'étais pas penchée. Alors je trouve ça vraiment génial. Et encore aujourd'hui, vous arrivez avec 4 bouquins, peut-être même 5. Je vous laisse le soin de nous les présenter en rappelant qui vous êtes. Vous êtes la bibliothécaire du Service québécois du livre adapté. Donc, c'est à vous que nous fournissons des livres audio-adaptés destinés aux non-voyants ou du moins aux personnes qui ont une difficulté, qui présentent une difficulté visuelle ou perceptuelle.
Effectivement. Bon. Et on les envoie ensuite à travers le Québec.
Il faut quand même bien le dire.
Ben oui.
Voilà.
Donc aujourd'hui, comme c'est la dernière, oui. Pour l'été, j'ai décidé de me gâter et au lieu d'aller dans les nouveautés, de proposer des livres que moi, j'aime particulièrement.
D'accord.
Donc, j'ai fouillé dans un catalogue et j'ai été avec certains de mes favoris. Donc, pour commencer, j'ai le roman « Bernadette a disparu » de Maria Semple. Mm-hmm. Je crois que je le prononce bien. Ça s'écrit S-E-M-P-L-E. Donc, un petit roman vraiment très drôle pour l'été. C'est
ouais.
Léger. Les usagers nous demandent souvent des romans qui font rire. Donc, ça en serait un.
Mm-hmm.
Donc, l'auteur, elle a commencé comme écrivaine pour la télévision, principalement des comédies. Donc, on peut vraiment le remarquer dans son écriture.
Ouais.
Donc, Bernadette, le personnage principal, c'est une architecte agoraphobe qui demeure à Seattle et qui disparaît avant un voyage de famille pour l'Antarctique.
Okay.
Donc, on voit déjà qu'on est dans un peu, là, comme on dit en anglais, le quirky, un petit peu bizarre,
ouais.
Un petit peu différent. Sa fille de 15 ans tente de résoudre le mystère à l'aide de différents documents. Donc, dans le roman, on a des courriels, des mémos, des transcriptions, ce qui souvent pourrait nous faire penser qu'on est un petit peu retiré de l'intrigue ou ça manque de description, mais ce n'est pas le cas. L'auteur réussit vraiment à bien peindre le portrait, là. Donc, tout ça, c'est utilisé dans l'intrigue pour mettre tous les morceaux ensemble et pour comprendre pourquoi Bernadette a disparu. Donc, ça se lit très rapidement. L'écriture est pleine d'esprit et c'est vraiment incroyablement drôle. En tout cas, moi, c'est mon sens de l'humour. En tout. J'ai rarement autant ri en lisant un livre. Le personnage de Bernadette, elle est un petit peu antipathique, un peu épineuse. Mm-hmm. Puis elle vit vraiment comme elle l'entend, mais l'auteur la rend quand même très sympathique parce qu'elle nous fait rire,
mm-hmm.
mais aussi parce qu'elle agit comme on le ferait finalement si on souciait moins du regard des autres.
Bon, alors, Bernadette a disparu par Maria Semple.
Ensuite, on va aller dans le un peu plus sérieux, Corps conducteur de Shawn Michaels.
Mm-hmm.
Shawn Michaels est un écrivain montréalais. D'ailleurs, il remercie dans ses commentaires à la fin du roman Le Café Olympico, car dans le Mylan, car probablement qu'il a écrit une grande partie de son livre en buvant un petit espresso. Donc, ce livre, c'est la version romancée de la relation entre l'inventeur Léon Thérémine, qui est l'inventeur du Thérémine.
Du Thérémine, l'instrument.
Et c'est ça. Donc, on appelle aussi Lev Termen. Il était russe et souvent, les Russes ont plusieurs noms. On parle d'intrigues qui peuvent nous porter à confusion des fois. Et Clara Rockmore, qui était la musicienne reconnue comme étant la première virtuose de l'instrument.
OK.
Donc, le Thérémine, si c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ça, c'est un instrument qui a été inventé au début du 20e siècle. Finalement, c'est une espèce de boîte et ça crée des ondes.
Mm-hmm.
Et le musicien bouge ses mains au-dessus de la boîte. Il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. On dirait que c'est dans l'air pur et fait des sons avec les ondes.
C'est l'ancêtre des ondes Martenot aussi, ce qu'on appelle les ondes Martenot, mais le Thérémine est plus vieux, je pense.
Et ça a un son qui hante, vraiment.
Oui,
on peut facilement sur YouTube trouver des vidéos de Thérémine. D'ailleurs, le titre en anglais, corps conducteur, vient de l'anglais « us conductors », et c'est intéressant parce que « conductors », en anglais, veut dire conducteur, donc l'électricité, mais aussi chef d'orchestre, parce que quelqu'un qui joue du Thérémine a l'air d'un chef d'orchestre.
Oui. Ça me fait penser un petit peu les sons à des... Pour aiguiller un petit peu les gens. À des sea going, c'est vrai. Et à des cris de baleines.
Oui, c'est vrai.
À des chants de baleines,
oui.
Devrais-je dire, plus que des cris. Mais ça me fait aussi penser à ça beaucoup.
Et donc, selon le roman, j'imagine que c'est vrai. Donc, lorsque ça a été joué pour les premières fois en public, il y a des gens qui éclataient en sanglots parce que ça venait vraiment les chercher.
Donc,
cet homme-là a une vie extrêmement intéressante. Il a passé du temps aux États-Unis entre 1927 à 1938, où il a travaillé comme espion contre son gré. car il avait été envoyé par la Russie. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il y avait des entrées dans toutes sortes de compagnies parce qu'il présentait ses inventions. C'était pas seulement le térémine. Donc, les ondes, ça peut être, par exemple, des portes de sécurité à la prison d'Alcatraz, par exemple. Donc, il y avait ses entrées partout. Et pour pouvoir rester aux États-Unis, ben, il devait donner de l'information ensuite à son gouvernement. Et c'est aussi le fait que c'est un homme de science et c'est un artiste en même temps. Okay. Donc, les deux choses ensemble, ça fait que sa perspective est très intéressante. Et bon, il est retourné en Russie, il a été emprisonné dans un goulag pendant près de 10 ans pour espionnage, de façon très ironique, parce qu'il espionnait pour son pays, mais ils ont décidé que non, finalement, c'était contre son pays. Où on l'a fait travailler dans ce qu'on appelle un charaska, ce que je ne connaissais pas, mais c'était des laboratoires secrets, car la Russie a emprisonné plusieurs de ses scientifiques. Et ensuite, utilisait leur savoir, leur travail pour l'utiliser.
Alors, ça s'appelle Corps conducteur, c'est de Shawn Michaels. Les règles du jeu. On va y aller un petit peu rondement, parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps à l'émission.
OK, donc je veux vraiment parler des deux derniers.
Oui.
Les règles du jeu, c'est le premier roman d'un auteur qui s'appelle Amor Tolles, paru en 2011. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre-là, c'est que donc, cet auteur, il s'agit de sa deuxième vie. Avant, il était investisseur dans une banque.
OK.
Et le roman, c'est une héroïne qui quitte Brooklyn, qui change son nom et qui part pour Manhattan, et elle vit une réinvention. Donc, ça se passe en 1937. C'est un univers qui est très Gatsby-esque. On reconnaît des noms, des personnages avec des noms comme Dickie, Bitty, Bucky.
Je vois bien.
C'est intéressant parce que New York est toujours en réinvention. L'héroïne est en réinvention. Ouais. L'auteur aussi, on y pense, a vécu une réinvention. Et même si c'est un auteur masculin, il peut très bien présenter son héroïne féminine. Et c'est un livre qui peut sembler léger en surface, mais qui a beaucoup de profondeur.
Les règles du jeu de Amor, si je prononce bien, Tolles. C'est bien ça?
Oui.
Et alors, l'homme est un dieu ruiné. Ça, j'adore ce titre.
C'est vraiment, ça vient, c'est fort comme titre.
Ça vient
titre.
Me toucher. Hein? L'homme donc, est un dieu ruiné.
C'est poétique déjà dans le titre, ce qui annonce bien pour le livre. Donc, c'est de Kate Atkinson. Je voulais en parler parce que Kate Atkinson, on la connaît déjà. On a beaucoup, beaucoup parlé de son roman « Une vie après l'autre », effroyablement populaire. Et là, elle a écrit une suite, pas vraiment une suite, un compagnon, finalement, à « Une vie après l'autre ». Et on en a moins parlé. Cette fois-ci, on suit le frère de l'héroïne d'une vie après l'autre, qui va devenir pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est très, très, très beau comme roman. C'est à la base, c'est un roman sur la guerre, l'avant et l'après-guerre, comment vivre avec les conséquences sur soi, sur la société, les conséquences sur les générations qui suivent aussi, qui ne l'ont pas nécessairement vécu. Moi, je ne trouve pas la Deuxième Guerre mondiale particulièrement intéressante, mais j'ai adoré le roman. C'est très, très lyrique et touchant. Et moi, personnellement, j'ai trouvé encore meilleur qu'Une vie après l'autre, donc je le recommande fortement.
L'homme est un dieu ruiné de Kate Atkinson. Hélène Gauthier, un plaisir de vous avoir avec nous. Peut-être, on ne sait jamais, on va peut-être vous réentendre cet été.
Oh, mais j'aimerais beaucoup, ça me ferait plaisir.
Il faut que je vous en parle, parce que vous savez qu'on vous reprépare, mesdames et messieurs, un magazine, comme on l'avait fait il y a un an. Mais vous avez tellement aimé ça qu'on va, le prolonger d'une demi-heure. Ça va toujours s'appeler Aime l'été, et ce sera présenté tous les midis, de midi à 13h30, avec toutes sortes de chroniqueurs qui vont venir pour nous parler de sujets plus estivales les uns que les autres. Est-ce que j'aurais dû dire estivaux? Bonne question, hein? Un sujet estival, des sujets estivaux. Eh bien, je l'ai faite, la faute. Merci beaucoup, Hélène Gauthier. Je vais poursuivre avec quelques titres en rafale pour vous. On connaît David Cronenberg, hein, le metteur en scène, réalisateur, et il a signé ce livre qui s'appelle « Consumé ES ». Nous sommes avec Naomi Seberg et Nathan Matt, qui œuvrent avec succès dans le photojournalisme à sensation de l'ère des nouveaux médias. Ils sont amants, mais ils sont aussi concurrents professionnels. Ils arpentent le globe séparément. Ils ne se croisent que dans des hôtels d'aéroport, où ils n'ont de rapport que par Internet. Ils sont toujours à la recherche d'histoires spectaculaires et, si possible, sordides. Celles de, par exemple, Célestine et Aristide Arostegui, ancien professeur de philosophie à la Sorbonne et couple libertin qui a tout pour attirer Naomi. C'est toujours un peu tordu. Hein. L'univers de Cronenberg, en tout cas au cinéma, dans les films, eh bien, c'est pareil pour le bouquin. Si l'univers de Cronenberg vous intéresse et vous passionne, eh bien, vous allez adorer consumer. « On se souvient évidemment de 37.2 le matin que nous a donné il y a maintenant fort longtemps Philippe Djian. Il nous arrive en ce moment, le livre est sorti il y a quelques mois déjà, avec Marlène. Nous sommes avec Dan et Richard qui sont deux vétérans de l'Afghanistan. Ils sont amis d'enfance, ils vivent dans la même ville depuis leur retour des zones de combat. Ils sont encore gravement perturbés par ce qu'ils ont vécu. Ils peinent à retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu près réglé. Il s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse. Il travaille beaucoup, mais celui de Richard, bagarreur, récidiviste, infidèle, semble définitivement perdu. Jusqu'à l'arrivée de Marlène, la belle-sœur de Richard, qui va redistribuer les cartes. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'à la tragédie ? Il y a de fortes chances que oui. Marlène, de Philippe Djian. Bon ben voilà mes amis, c'est le temps de refermer les livres pour cette émission, mais également pour cette saison 2017-2018 des livres plein les oreilles. Je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu Tessier, Maurice Bolduc de me soutenir aussi bien dans la production, dans la réalisation de cette émission-là. Les chroniqueurs, je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a plusieurs dizaines, mais je vous embrasse, je vous remercie mille fois et j'espère que vous serez encore de la partie l'an prochain. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine, un bel été. Les émissions que vous avez le plus appréciées seront en reprise. Je parle des livres plein les oreilles durant tout l'été, alors une bonne occasion pour les entendre ou pour les réentendre. Salut.